Il est 18h. Et c'est l'heure du journal d'Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Une première étape importante qui redonne confiance, selon le patron du MEDEF. Le gouvernement a présenté ses ordonnances réformant le Code du travail. Nous les détaillerons avec Marie Viennot. Nous entendrons la satisfaction de la CPME, mais aussi la déception de la CFDT et la colère des insoumis. La décrue n'est pas synonyme de soulagement au Texas. Elle met en évidence l'ampleur des dégâts après le passage de la tempête Harvey. Et les services de secours sont préoccupés par les fumées noires qui se dégagent d'une usine chimique près de Houston. Philippe Randet est sur place. Le bastion djihadiste de Tal Afar est bel et bien tombé en Irak. Les forces annoncent aussi avoir reconquis la totalité de la province de Ninive. Nous ferons le point avec Eric Biegala. Enfin, nous nous pencherons sur le sort des Rohingyas. Les réfugiés musulmans qui fuient la Birmanie se trouvent bloqués à la frontière avec le Bangladesh. Dossier signé Nadine Epstein. La réforme du Code du travail se concrétise. Elle est ambitieuse, équilibrée et juste, selon le Premier ministre Édouard Philippe, qui a présenté les ordonnances du gouvernement en compagnie de la ministre du Travail. Muriel Pénicaud souligne que cette réforme donne, pour la première fois, la priorité aux PME et aux très petites entreprises. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir Aurélie.
Vous avez écouté les deux ministres. Ils ont d'abord confirmé et précisé certaines mesures qui avaient déjà fuité.
Oui, alors on connaissait déjà la philosophie générale de ces ordonnances, faire de l'entreprise le niveau essentiel du dialogue social, sachant que les accords d'entreprise peuvent déjà être moins favorables que les accords de branche et la loi sur certains sujets. Alors la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté ces changements comme la preuve de la confiance aux accordée aux acteurs de terrain. Eh bien, les acteurs de terrain pertinents, donc comme prévu, ne seront plus forcément des salariés élus et mandatés par un syndicat. Dorénavant, en dessous de 50 salariés, des accords sur tous les sujets, notamment la rémunération, le temps de travail et l'organisation, pourront être négociés sans les conseils d'un syndicat. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cela va au-delà. Jusqu'à maintenant, ces entreprises se conformaient aux dispositions négociées dans les branches, faute d'élus. À l'avenir, le chef d'entreprise pourra proposer un accord sans négociation ou négocier avec un salarié non élu. Alors, difficile de dire comment cela va se passer concrètement. Ce que dit le texte du gouvernement, c'est que le chef d'entreprise devra consulter son personnel par un référendum, ça n'est pas dit. Alors comme prévu, le motif économique pour justifier d'un plan social pourrait être apprécié au niveau national sans tenir compte de la santé économique du groupe et confirmé aussi. Pour finir, l'augmentation des indemnités légales de licenciement, on passe d'un cinquième de salaire par année d'ancienneté à un quart. C'est l'une des rares avancées arrachées par les syndicats de salariés.
Et alors quelles étaient les annonces vraiment nouvelles aujourd'hui ?
Alors il y avait une incertitude sur le seuil à partir duquel les instances représentatives du personnel seraient fusionnées. Le MEDEF espérait que cela soit pour toutes les entreprises. C'est finalement limité aux entreprises entre 50 et 300 salariés. Sur les prud'hommes, on attendait les montants des plafonds. Ce sera maximum un mois de salaire en dessous d'un an d'ancienneté et jusqu'à 20 mois au-delà de 28 ans. Pour les très petites entreprises, le plancher sera de 15 jours à partir d'un an d'ancienneté contre un mois pour les autres entreprises. Ce qui a surpris les syndicats, notamment la CGT, c'est la création d'un dispositif de rupture conventionnelle collective. Jusqu'à maintenant, ces ruptures ne sont qu'individuelles. Enfin, un observatoire de la négociation va être créé. Il doit notamment suivre les pratiques de discrimination syndicale qui sont inacceptables, dit le texte explicatif diffusé aujourd'hui par Matignon. Pas sûr que cette empathie affichée à la 34e mesure sur 36 fasse réellement contrepoids.
Merci Marie Viennot. Alors, les réactions sont relativement diverses, en fait, chez les syndicats de salariés. Sans surprise, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, déclare que toutes ses craintes sont confirmées et il estime que la désunion syndicale est favorable au MEDEF. Assez grande déception de la CFE-CGC, qui craint une plus grande précarisation des salariés. Déception aussi à la CFDT, pour qui la réforme n'est pas à la hauteur. Véronique Descac, secrétaire générale adjointe de la Confédération, ne digère pas le recours au référendum dans les petites entreprises.
Il nous semble que le gouvernement fait un contresens total. Il dit qu'il faut moderniser le pays. Ça passe par une modernisation du dialogue social en renforçant son rôle dans les entreprises. Et puis, au lieu de faire ça, il dit aux petites entreprises, alors c'est vrai que aux petites, Mais enfin, quand même, ça fait 30% des salariés, peut-être même un peu plus, qui sont dans ces entreprises-là. Et ben, cela, le patron, il pourra faire ce qu'il veut. Le patron, il va pas les négocier avec ses salariés, pas du tout. Le patron, il fera ce qu'il veut. Il pourra prendre des décisions unilatérales qu'il soumettra à un référendum auprès de ses salariés. On voit bien comment, quand des salariés ne sont pas protégés, puisqu'ils sont ni élus ni syndiqués, quand des salariés ne sont pas protégés, qui sont dans un lien de subordination, si le patron décide demain matin de leur dire « je vais plus payer les heures sub à 25 mais à 10%... »
Vous estimez que le rapport de force, il est déséquilibré.
Le rapport de force est très mauvais. Donc voilà, le premier qui lèvera la main, il prend quand même des risques sur son emploi.
Véronique Descaques de la CFDT au micro de Céline Asselot. La réaction de Force ouvrière est prudente. Nous allons examiner l'ensemble de ces textes et on rendra un jugement définitif à la fin, déclare Jean-Claude Mailly. Quant à la CFTC, elle se veut constructive. Du côté des patrons, c'est cette fois la satisfaction. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, salue, je cite, « une étape importante qui peut aider à conforter la confiance des entreprises ». Sentiment partagé par la Confédération des PME. Jean-Michel Potier, vice-président de la CPME, salue des ordonnances pragmatiques qui collent selon lui à la réalité du terrain.
Cette modification du Code du travail, elle apporte deux points très très intéressants. Elle apporte de la sécurité à l'entreprise et à ses salariés, et je peux le démontrer. Et puis surtout, elle est de nature à restaurer la confiance. Je ne vois pas à aucun moment que développer le dialogue social et réduit les avantages sociaux consentis aux salariés. Je pense que profondément, c'est une erreur, que plus il y aura de dialogue social, plus on ouvrira le robinet du dialogue social et plus il y aura des avancées dans les entreprises, des adaptations à la réalité de l'entreprise. Et puis, dans ces entreprises, particulièrement les moins de 50 et les moins de 20, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir sortir de la clandestinité. Parce qu'on était dans l'incapacité pour 96% de ces entreprises de pouvoir passer des accords. Le mandatement syndical est un leurre. L'intérêt maintenant, c'est de pouvoir effectivement passer des accords avec le personnel de cette entreprise pour travailler ensemble.
Jean-Michel Potier de la CPME. Les représentants des artisans et des toutes petites entreprises font également part de leur satisfaction. Parmi les réactions politiques, on notera que seuls les alliés du gouvernement se félicitent vraiment. Chez les Républicains, Daniel Fasquelle tweet « On attendait Schröder et une réforme en profondeur du marché du travail. À la fin, on a El Khomri 2, le retour. » Pour Nicolas Bay au Front National, il y a une escroquerie intellectuelle dans ce projet du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on précarise les salariés que les entreprises vont embaucher. Et le socialiste Olivier Faure estime que les salariés sont les grands oubliés de la réforme. Olivier Faure qui sera l'invité de Stanislas Vazak dans le journal de 22h. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous avez recueilli les réactions à la gauche de la gauche.
Oui, une riposte instantanée. La France Insoumise a tenu une conférence de presse dès midi pour commenter en direct la présentation des ordonnances par le Premier ministre et la ministre du Travail. Alexis Corbière est député de la France Insoumise. Il dénonce une atteinte fondamentale aux droits des salariés.
Il y a une agression confirmée contre le Code du travail, avec préméditation en plus. Que chacun comprenne que ce qui est en train d'avoir lieu, c'est le basculement de l'ordre social dans une nouvelle étape, hélas, de régression. C'est sans doute, on pourrait dire, Noël en septembre pour la fraction la plus dure du patronat français, la plus sectaire. Tout ce qui a amené à ce que nous étions particulièrement inquiets et en situation de dire aux Français qu'il y avait un coup d'état social qui se préparait, se voit confirmé. Ça n'est pas une formule abusive, c'est la réalité.
Il s'insurge notamment contre le CDI de chantier et la fusion des instances de représentation syndicale. Charlotte Girard, l'une des porte-paroles du mouvement, s'inquiète en particulier des critères de prise en compte de la pénibilité qui seront supprimés.
Par exemple, le port de charges lourdes n'est pas considéré comme un élément de la pénibilité. Vous avez également les postures pénibles où le corps est engagé, les vibrations mécaniques, les risques chimiques ne sont pas considérés comme faisant partie des éléments pour mesurer la pénibilité d'un travail.
Autre offensive, celle de Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise et devenue récemment chroniqueuse de la chaîne C8, qui a interpellé directement Édouard Philippe lors de la conférence de presse sur le rôle de l'Élysée dans la rédaction des ordonnances. Le Parti communiste, lui, a choisi de tenir une émission d'une heure en direct sur Facebook cet après-midi. Pierre Dharréville, député PCF, espère un mouvement massif de protestation dans la rue le 12 septembre prochain.
Tout ce qui va pouvoir permettre de faire grandir la mobilisation populaire et permettra peut-être de faire reculer ce gouvernement sur ce projet de loi, je crois qu'il ne faut pas considérer que parce que les ordonnances sont publiées, les choses sont définitivement écrites. Bien au contraire, la bataille ne fait que commencer.
Mais le front de la contestation est divisé aujourd'hui. Au NPA, Philippe Poutou dénonce un mauvais coup fait aux salariés au profit des plus riches, auxquels il espère une réponse dans la rue.
Sophie Delpont. Boris Faure, premier secrétaire secrétaire de la Fédération PS des Français de l'étranger est en soins intensifs. Il a été frappé hier à Paris par un député de La République En Marche, apparemment un coup de casque de scooter. Mjib El-Gherab regrette, je cite, d'avoir cédé à la provocation. Il affirme avoir réagi à une insulte raciste. La République En Marche condamne son acte et souligne dans un communiqué « Aucun comportement ne saurait justifier des actes de violence ». Double actualité dans le scandale des œufs contaminés au fipronil. Les services départementaux achèvent aujourd'hui leur enquête. Les DDPP, Direction départementale de la protection des populations, avaient été missionnés par le ministère de l'Agriculture pour vérifier si l'un des produits incriminés en Belgique et aux Pays-Bas avait été utilisé dans des élevages en France. Et puis, un mois après la révélation de la fraude, les députés européens viennent d'auditionner les représentants de la Commission européenne chargée du suivi de la crise. Justine Dinchet, le scandale semble encore s'étendre.
Oui, jusqu'à maintenant, ils étaient 18 pays. Eh bien, ce sont maintenant 22 États qui sont concernés, principalement des États membres de l'Union européenne. La Grèce, par exemple, a découvert très récemment qu'elle avait reçu un lot contaminé, information révélée par la directrice chargée de la sécurité alimentaire à la Commission européenne. Devant les eurodéputés, Sabine Julischer a ainsi confirmé que l'enquête menée ces dernières semaines avait révélé l'utilisation du fipronil dans les exploitations dès septembre 2016. Elle a rappelé que le risque pour la santé du consommateur était faible à improbable, que seules les poules pondeuses étaient concernées et pas les poulets d'engraissement, et qu'enfin à ce jour, les analyses n'avaient pas permis de détecter de résidus d'amitraze, autre insecticide incriminé. Alors si aujourd'hui les œufs et la viande contaminée ont tous été retirés du marché, la crise n'en est pas terminée pour autant. D'abord parce que l'enquête sanitaire se poursuit, et ensuite parce qu'il va falloir s'interroger sur la prévention des risques, d'après les eurodéputés. Comment améliorer le système d'alerte, le premier échantillon positif ayant été prélevé le 15 mai, soit plus de 2 mois avant que le scandale n'éclate. Comment aussi dédommager les producteurs, alors qu'au moins 4 pays tiers ont limité leurs importations. Et puis enfin, comment éviter que la crise ne se prolonge à travers les restes, plumes, carcasses, excréments des poules. Et finalement, comment empêcher que le fipronil ne réintègre la chaîne alimentaire. Pour y répondre, les ministres européens concernés par le scandale se retrouveront pour une réunion exceptionnelle le 26 septembre.
Pas de progrès notable dans les négociations sur le Brexit. Britanniques et Européens ont conclu leur 3e semaine de discussion et 5 mois après le déclenchement de la procédure de divorce par le Royaume-Uni, les points de vue restent irréconciliables, Pierre Benazet.
Les négociateurs européens et britanniques peuvent se targuer cette semaine de quelques progrès sur les droits des travailleurs frontaliers ou bien sur le statut de la frontière intra-irlandaise. Mais pour le négociateur en chef de l'UE, il ne s'agit pour l'instant que de clarifications. Et Michel Barnier affiche la même préoccupation qu'au début de cette 3e reprise.
Cette semaine, nous avons apporté des clarifications utiles sur beaucoup de points, mais nous n'avons enregistré aucun progrès décisif sur les sujets principaux. Au rythme actuel, nous sommes loin de constater des progrès suffisants pour pouvoir recommander au Conseil européen d'engager la discussion sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le temps presse pour parvenir, comme nous le souhaitons, à un accord global.
L'ouverture de discussions sur la future relation euro-britannique est pourtant une demande pressante du Royaume-Uni, mais elle ne semble pas prête de survenir, alors que plane désormais la menace d'un échec des négociations si jamais il n'y a pas d'accélération des résultats. Les dissensions sont toujours aussi vives entre Britanniques et Européens sur 2 des sujets principaux. D'abord, la possibilité de confier à la Cour de justice de l'UE la garantie des droits des citoyens et surtout la question de la reconnaissance par le Royaume-Uni des engagements financiers que réclament les Européens.
Pierre Benazet à Bruxelles. 2 explosions se sont produites sur le site d'une usine chimique située à Crosby au Texas. L'usine Arkema a été inondée du fait des pluies torrentielles provoquées par la tempête Harvey. Les secours sont préoccupés par les fumées qui se dégagent. Ils craignent qu'elles ne soient très dangereuses, mais les responsables d'Arkema, eux, se veulent rassurants. Notre envoyé spécial, Philippe Rondé, s'est rendu à Crosby.
Un des responsables d'Arkema s'est exprimé ici à Crosby, à quelques kilomètres à peine de l'usine, et il est resté assez évasif, on va le dire comme ça. Oui, les fumées sont irritantes, a-t-il dit, quant à connaître les dangers pour la population.
Il ne s'agit pas d'une fuite de produits chimiques, mais d'un incendie. Et quand des produits chimiques prennent feu, parfois la combustion est incomplète et produit de la fumée. La toxicité de cette fumée est irritante pour vos yeux, vos poumons et potentiellement votre votre peau.
Voilà des incendies chimiques qui devraient se poursuivre dans les prochaines heures. Des incendies déclenchés dans un conteneur par la dégradation de peroxyde organique qui n'est plus réfrigéré à cause des inondations. Le problème, c'est qu'il y a encore 8 conteneurs qui pourraient à leur tour brûler et exploser en raison de la forte chaleur provoquée par le processus chimique. Ici à Crosby, dans cette ville de 30 000 habitants, un périmètre de sécurité a été instauré. L'autoroute qui passe devant l'usine est évidemment fermée dans les deux sens. Le shérif du comté de Harris s'est voulu rassurant, expliquant que respirer ces inhalations revenait à respirer de la fumée de barbecue. Pas vraiment l'avis de l'Agence fédérale des situations d'urgence, qui a affirmé que le panache de fumée était, je cite, « extrêmement dangereux ».
Alors, au contraire, l'Agence de l'environnement vient d'indiquer qu'il n'y aurait pas de concentration d'émanations dangereuses dans l'usine d'Arkema. Pour les forces irakiennes, c'est une victoire clé contre le groupe État islamique. Avec l'appui de la coalition internationale menée par les États-Unis, elles ont pu reconquérir le bastion djihadiste de Tal Afar et la totalité de la province septentrionale de Ninive. Selon la coalition, l'EI ne tient plus que 10% du pays, Eric Begala.
Oui, le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a attendu ce jeudi pour annoncer la reprise définitive de Tal Afar et la libération de toute la province de Ninive, c'est-à-dire en fait de tout le nord irakien. En fait, la ville de Tal Afar, 60 km à l'ouest de Mossoul, avait elle-même été dûment reprise, il y a 4 jours déjà. Mais les djihadistes s'étaient pour la plupart enfuis vers le nord-ouest et regroupés dans un petit village, à Yadiyeh, à une dizaine de kilomètres de Tal Afar. Certains ont manifestement tenté de rejoindre le territoire syrien, assez proche, mais ont été en bonne part interceptés par les Peshmerga kurdes, qui tiennent assez fortement cette partie du pays. Un commandant Peshmerga donnait hier le chiffre de 130 djihadistes tués par ces hommes sur les 3 derniers jours. Quant à Yadiyeh, les forces irakiennes ont attaqué le village en force. Les combattants djihadistes y avaient concentré l'essentiel de leurs troupes, environ 1 000 d'hommes. L'endroit a été réduit ce jeudi matin après un déluge de tirs d'artillerie et de bombardements aériens. L'armée de Bagdad aurait ainsi tué entre 700 et 800 djihadistes dans cette bataille de Tal Afar à Yadiyeh, indiquait tout à l'heure à l'agence France Presse le brigadier général Andrew Croft, le numéro 2 de la coalition internationale qui appuie les Irakiens. Et une centaine d'autres djihadistes se seraient rendus. La province de Ninive est aujourd'hui entièrement libérée du califat. Il ne reste plus en Irak que 2 enclaves encore contrôlées par les djihadistes, la poche d'Awija, 250 km au nord de Bagdad, qui sera probablement le prochain objectif de l'armée irakienne, et complètement à l'ouest du pays, sur la frontière syrienne. L'État islamique contrôle toujours aussi la vallée de l'Euphrate sur une centaine de kilomètres. Une maîtrise du terrain qui se prolonge en Syrie, toujours sur cette vallée de l'Euphrate et sur un autre 150 km. Cette moyenne vallée de l'Euphrate, à cheval sur les deux pays, c'est en gros la dernière base territoriale du califat.
À Raqqa, en Syrie, les civils payent un prix inacceptable, s'inquiète le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. 20 000 civils sont bloqués dans la ville tenue par l'État islamique alors que les frappes aériennes de la coalition internationale se sont intensifiées. Les gardes-côtes du Bangladesh ont découvert ce matin les corps sans vie de 17 Rohingyas, souvent très jeunes. Leurs bateaux ont chaviré alors qu'ils fuyaient les violences en Birmanie. Les combats ont redoublé d'ardeur entre l'armée birmane et les rebelles issus de cette minorité musulmane persécutée. Et depuis une semaine, au moins 20 000 Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh. Mais voilà, les nouveaux arrivants se retrouvent bloqués à la frontière, Nadine Epstein.
Oui, le Bangladesh, qui a déjà accueilli plus de 400 000 réfugiés Rohingyas, a décidé de fermer sa frontière avec la Birmanie et des milliers de personnes se retrouvent bloquées dans un no man's land. Elles ont fui, vous l'avez dit, la nouvelle violence, flambée de violence, qui a à l'ouest de la Birmanie, qui a fait une centaine de morts et des milliers de déplacés. Depuis vendredi, chaque jour, près de 3000 personnes franchissent quotidiennement la frontière avec le Bangladesh, pays extrêmement pauvre, qui estime ne plus pouvoir accueillir qui que ce soit. L'armée birmane mène une féroce répression contre la minorité musulmane, qui pourrait s'assimiler à une épuration ethnique, a dénoncé les Nations Unies. Les réfugiés parlent d'incendies meurtriers, d'assassinats aveugles, d'autres mauvais traitements inhumains. Camille Cuisset de l'association Info Birmanie.
La Birmanie ne veut pas parler de reconnaissance de citoyenneté. On sera obligé de passer par là, de lancer un processus. La Birmanie est un pays majoritairement bouddhiste et il y a une propagande qui dure depuis des années qui dit que les Rohingyas, leur droit doit être limité. Il y a des lois qui se sont faites. Hein. Ils sont apatrides depuis 1982. On réduit leurs droits de plus en plus. Ils sont toujours privés de leur liberté de mouvement. Et en fait, le gouvernement birman n'affronte pas la question. Et il y a une enquête nationale qui est en cours, mais il n'y a que des choses qui ne sont pas du tout contraignantes. Par exemple, la commission d'enquête dirigée par Kofi Annan, C'est des recommandations qui sont très bien et que le gouvernement doit écouter aujourd'hui, qui parlent notamment de la reconnaissance de la citoyenneté, de la liberté de mouvement qui est nécessaire pour l'accès aux droits. Mais le gouvernement birman refuse l'enquête qui a été mandatée par l'ONU au dernier Conseil des droits de l'homme. On est dans une situation où il n'y a pas de débat. Et même là, on a un pas de plus parce qu'il y a eu à peu près la même vague de violence en octobre dernier suite à des attaques, ensuite répression de l'armée. Là, il se passe à peu près la même chose, sauf que le gouvernement birman, que ce soit l'armée ou le gouvernement civil, ne prend pas position pour les Rohingyas, ne les protège pas du tout, ça c'est pas nouveau, mais en plus a des commentaires qui peuvent attiser les tensions intercommunautaires entre les Arakanais bouddhistes et entre les Birmans, qui légitiment le pouvoir de l'armée, alors que l'armée est accusée par les Nations Unies de nombreuses violations des droits de l'homme. Elle parle de possibles crimes contre l'humanité et possibles nettoyages ethniques. Les vagues de violence sont vraiment de plus en plus rapprochées.
Le pape, qui se rendra à la fin de l'année en Birmanie, au Bangladesh, a demandé au pouvoir birman, dirigé par l'ex-dissidente, prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, je cite, de respecter les droits de nos frères Rohingyas, mais la chef du gouvernement suit la ligne dure de l'armée.
Merci Nadine Epstein. Le temps restera perturbé. Demain, il y aura encore des averses, mais également des éclaircies. Les températures sont toujours fraîches pour la saison, 17 à 24 degrés l'après-midi du nord au sud.